arriba va.
Venga, venga.
I am your father.
On laisse pas Pépé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes de retour sur Ciné 7 et sur RKS. C'est le cinquième épisode, si je ne me trompe. Un cinquième épisode toujours à deux, malheureusement. Jade est toujours au soleil et à la plage. Elle nous envoie les rayons et la chaleur du sud. Et on est toujours à deux. Et dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, Marvin, bonjour.
Salut tout le monde.
Donc, ce que je viens de dire, la continuité de l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marvin ?
Alors, la semaine dernière, on a parlé du coup des meilleurs films, les meilleures musiques de films Disney. Et là, on va s'attaquer du coup aux meilleures musiques de films Pixar. Donc, c'est étroitement lié puisque du coup, Disney a racheté Pixar il y a un petit moment déjà. Donc, on va être sur une bonne continuité.
Ouais, c'est un prolongement. Un prolongement de la semaine dernière, c'est un complément. On se fait plaisir avec des films qui nous font plaisir et qui ont bercé notre enfance pour toujours une heure de musique et une heure de musique de film, une heure de ciné 7 sur RKS. Et on va pas trop tarder, on va attaquer tout de suite avec une première chanson. La semaine dernière, on avait les chansons en français. Cette semaine, on a décidé de faire les chansons en anglais, les versions originales. Donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite reconnaître, mais en tout cas, les mélodies vont vous revenir dans la tête, c'est sûr et certain. On se retrouve tout de suite, c'est le cinquième épisode de Ciné 7 sur RKS.
If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome,
no way,
it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied.
You agree with it.
Your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
You and me together, that's how it always should be. To me,
nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing. If I didn't have you.
I know what you mean, Sully. Because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway.
'Cause we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you.
One more time!
I won't have to say it.
Et donc, c'était la musique tirée du film Monstres et Compagnie, donc sorti en 2001, réalisé par Pete Docter et David Silverman. Donc, Monstres et Compagnie, pour moi, très bon film. Je pense que c'est rare qu'une personne nous dise une critique négative sur Monstres et Compagnie. Donc, rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sans spoiler bien évidemment, donc de quoi ça parle Monstres et Compagnie. Donc, on va suivre deux protagonistes principales qui sont en fait des monstres. Donc, c'est là tout le génie en fait de Pixar, parce que du coup, on va s'attacher à des monstres que habituellement en fait, quand on est enfant, on a peur des monstres. Surtout, c'est une grande phobie, les monstres derrière les placards, sous le lit. Difficile de s'endormir pour certains. Et là, en fait, on va justement s'attacher à ces monstres-là. Donc, de quoi ça va parler? En fait, ça va se passer dans une petite ville qui s'appelle Monstropolis, qui en fait est alimentée en énergie grâce aux cris et à la peur des enfants. Donc, en fait, Monstropolis, ils mettent en fait tous leurs espoirs dans une élite, dans une troupe d'élite qui vont devoir faire peur aux enfants et du coup créer l'énergie. Qui est vital pour du coup pour leur petite ville, et on va en fait avoir une péripétie, on va avoir une rencontre mystérieuse assez inattendue entre du coup une toute petite fille du nom de Boo et du coup les deux personnages principaux, donc Bob Razowski et Jack Sullivan. Un avis, Kélian?
Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, le génie de Pixar. C'est ce qui est caractéristique d'une grande partie et de la quasi-totalité des films Pixar, c'est qu'ils arrivent à trouver des idées de scénario qui sont révolutionnaires. Là, on va aller voir l'envers du décor, des monstres qui se cachent sous les lits et sous les placards. Et en fait, Pixar va nous dire, en fait, s'ils nous font peur la nuit, c'est parce qu'ils sont obligés, c'est leur métier. Et en fait, c'est un peu une manière du coup de dédiaboliser ces monstres-là dans le placard. Et avec l'histoire d'amour et d'affection qui va se passer entre Boo et les deux personnages principaux, ça va aussi nous transposer ça vis-à-vis de nous-mêmes, nous enfants et une enfant qui se confronte au monstre qu'il y a dans son placard. C'est clairement ça le génie de Pixar, et qui fait que ce film fait partie des meilleurs. Et de toute façon, un film Pixar en général, c'est quand même assez rare de ne pas trop l'aimer. Mais c'est l'idée scénaristique qui est déjà assez impressionnante. Et après, le film est génial, il est bourré d'humour comme tout bon Pixar.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que là, on va inverser la tendance. C'est plus les enfants qui vont avoir peur des monstres. Hormis quelques-uns, du coup Boo ne va pas avoir peur des monstres, mais ça va être justement les monstres qui vont avoir peur des enfants. Surtout en fait, le speech du film, c'est de ne surtout pas rentrer en contact avec un enfant ou un objet qui peut appartenir à un enfant, comme par exemple pour la scène de la chaussette dans le film. Donc c'est là en fait tout le génie de Pixar, c'est qu'on va du coup dédramatiser le fait que les monstres ça fait peur, c'est méchant, et justement ça va nous montrer en fait que c'est les enfants qui sont les petits monstres et qu'il faut en fait s'en méfier, quoi. C'est une belle métaphore.
Oui, parce que pour rappeler, et pour ceux qui ne le savent pas, dans le film les enfants sont contagieux et sont toxiques pour les monstres, c'est pour ça qu'ils ne doivent pas avoir de contact avec eux. Et la rencontre entre Boo et Bob et Sully va un peu changer tout ça et va leur faire comprendre certaines choses.
Et visuellement aussi, c'est très beau. On a un beau travail sur l'aspect des monstres, sur leur fourrure, sur le couleur de leur poil. On va avoir vraiment des couleurs assez différentes. Par exemple, pour Léon, ça va être du violet. Jack Sullivan, ça va être du bleu avec des petites touches de violette. On va avoir du vert. Enfin, c'est vraiment ils vont pas se contenter d'avoir, parce que généralement dans les livres, dans les illustrations, des monstres, ça va être assez noir, gris, rouge, des termes assez sombres. Et là, justement, on va avoir des couleurs super vives, des couleurs qui généralement apportent plutôt de la joie et pas de la peur. Donc ça en fait pour moi, ça en fait un très bel aspect visuel. Et est-ce que tu savais, petite anecdote qu'on va placer comme ça, donc le personnage principal du coup, Bob Razowski, donc le petit monstre avec donc Cyclope, dans la version originale, il ne s'appelle pas Bob Razowski, mais Max Wachowski.
Alors, je ne savais pas. Est-ce que tu as une explication à ça? Pourquoi?
Alors, j'ai pas cherché exactement, mais moi, personnellement, je pense que pour un enfant, dire Max Wachowski, c'est plus compliqué que Bob Razowski. Je pense que ça s'entend. Pour les Anglais, ça paraît, c'est beaucoup plus simple dans ce sens, dans leur sens à eux. Mais nous, du coup, je pense que ça passait pas trop bien, même tout simplement pour les doubleurs, et ça faisait pas assez naturel. Donc moi, je trouve Bob Razowskif, Bob, j'aime bien.
Ouais, c'est marrant, Bob. C'est presque une onomatopée, quoi.
Ça passe super bien.
Donc un très 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 beau film. On a attaqué avec ce très bon film à voir en famille, clairement. Un avis sur le 2, parce qu'il y a eu une suite.
Oui, il est sorti en 2013, je crois.
Enfin, suite qui n'est pas spécialement une suite, c'est un préquel. Il s'appelle Monstre Academy, où là, on va suivre l'histoire de Bob qui rentre à l'université des monstres pour pouvoir intégrer la société Monstre et compagnie, qui va faire peur aux enfants, donc qui va apprendre à faire peur aux enfants. Il va avoir des cours de ça. Et donc, c'est le scénario du 2. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Alors, quand je l'ai vu, j'étais un peu plus jeune. Donc, j'avais beaucoup aimé, forcément. Enfin, de toute façon, les Pixar, c'est rare que j'en apprécie pas un. Mais en fait, quand j'y repense, et après l'avoir vu plusieurs fois, déjà, je le trouve nettement moins original que le 1. Au final, en fait, on sait où le scénario va nous emmener. On sait en fait la rencontre, comment ça va se passer. On sait qu'ils vont pas être en froid dans le film entre les deux copains. Oui, très très bon film. Et après, franchement, moi je l'ai oublié. Personnellement, je l'ai oublié. C'est pas celui qui m'a marqué. Je pense que les enfants qui sont nés plutôt un peu plus tard et qui l'ont découvert assez jeune, je pense pas que c'est ce film-là qui vont garder dans leur mémoire. Après, même les personnages, je les trouve un peu moins développés. Je me suis beaucoup moins attaché aux nouveaux personnages qu'on nous a présentés, comme par exemple Squishy ou le bonhomme qui
doublé par moustache. Jamel Debbouze.
Je sais plus. Franchement, j'ai aucune idée de ça. Donc ouais, franchement, si je devrais donner une note sur 5, on serait sur un 3,5 sur 5 par exemple.
Ouais. Parce que ça reste un Pixar, donc.
Ça reste un Pixar, donc c'est très beau déjà visuellement. C'est encore très beau parce qu'on aura encore une fois, je me répète, mais une belle palette de couleurs sur les monstres. Mais même au niveau des décors, quoi, ça va être une école assez simple. On va rester souvent dans l'académie, dans l'université. Les seuls moments qui sont pour moi les meilleurs du film, c'est quand on va voir les espèces d'épreuves pour du coup l'intégration, pour savoir qui est le meilleur monstre, et qu'on va par exemple passer dans la bibliothèque, on va voir des décors assez différents, des monstres beaucoup plus grands, chose qu'on n'a pas vu par exemple trop dans Monstres et Compagnie premier du nom, à part la scène d'ouverture, il y a un espèce de gros monstre sur le passage piéton. Donc et toi ?
Ouais, à peu près la même chose. C'est un film qui est sympathique à voir en soirée avec ses enfants tranquillement, mais qui reste pas spécialement attaché dans nos cœurs et dans nos mémoires, quoi. C'est une bonne soirée, mais c'est pas le film de notre vie, quoi.
De toute façon, voilà, un préquel, c'est souvent soit au niveau du scénario, on sait où on va nous attendre, ou on est moins du coup le fait qu'en fait on s'est attaché au personnage, le fait que voilà, on connaît leur amitié. Là, on est un peu déçu de les voir en fait un peu se batailler à l'écran, puisqu'on a grandi avec et qu'on les aime beaucoup les deux, ça nous fait chier de voir qu'ils se déchirent entre eux. Donc voilà.
Et donc on va enchaîner avec un autre film Pixar qui a eu beaucoup de suites, qui en a eu deux. C'est ça te parle ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Il y en a plusieurs. Après,
il y en a beaucoup, hein. Mais c'est Cars qui a eu trois suites, enfin qui a eu deux suites.
Non, trois.
Oui, enfin.
Ah oui, pardon.
Il y a eu deux suites parce
deux
que
suites, voilà,
le dernier en liste, c'est Cars 3. Et donc on va enchaîner avec une très bonne musique, très rock, qui donne envie de partir sur les routes de l'Ouest en décapotable et de pas trop respecter les limitations de vitesse quand on est tout seul sur la route. Et on se retrouve tout de suite après avec une autre musique, une très très bonne musique Pixar. Vous allez voir, vous la connaissez forcément, elle va vous rappeler des bons souvenirs. À tout de suite.
travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. à sauter les repas. Je suis habitué à un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi.
Vous avez sûrement reconnu la voix de la chanteuse Camille qui chante la chanson Le Festin, la chanson, la bande originale de Ratatouille, du film Ratatouille, le magnifique film Ratatouille qui vante la gastronomie française. Et juste avant, c'était la chanson de Life is a Highway de Rascal Flatts qui est tirée des Cars, une très belle chanson pour un film un peu moins...
Bon,
un peu moins original, un peu moins marquant, enfin pour nous, hein, c'est notre avis hein, toujours. Mais,
Voilà. Au niveau du scénario, en fait, hormis si on enlève le fait que ce soit des voitures, ça reste un speech assez simple. Donc le héros qui est voilà qui goûte à la célébrité, qui est le plus fort et qui va redescendre en fait d'un étage, qui va découvrir des personnes simples, qui en fait va devoir réapprendre à cohabiter avec des gens assez simples qui s'en foutent de tout ce qui est célébrité. Il y a plein de films qui ont fait ça, donc à part que c'est des voitures, c'est pas forcément super. Surtout c'est que pour moi Cards, à l'époque où c'est sorti, j'ai vraiment vu ça comme comme en fait vendre des voitures quoi. C'était vraiment vendre des petites voitures pour les enfants, c'était un public le public touché était principalement, on va pas se mentir, c'était plutôt des jeunes garçons. Quand on voit dans les magasins d'enseignes de jouets, ça va être en fait toutes les petites voitures pour orienter dans le rayon garçon. Donc ils ont bien réussi leur coup pour ça, forcément. Bon après être Pixar d'asson, c'est très financier. Mais moi, il m'a pas marqué du tout et les suites encore pire. Franchement, les suites, je pense que c'est considéré, enfin, par tout le monde comme l'une des, enfin voilà, les pires films Pixar quoi. Le 2, franchement.
Ouais, le 2, c'est une espèce de...
C'est un film d'espionnage.
Un pseudo James Bond, mais voilà. Avec des voitures. D'ailleurs, on a
Il n'y a aucune magie Pixar.
Ouais, on a aucune. Mais du coup, oui, on a l'Aston Martin de James Bond qui fait une apparition en personnage dans le film. Mais oui, c'est vrai que ça n'a un peu rien à voir avec le premier film. Le 3 le rappelle un peu.
Bah, oui, un petit peu. Après, moi, par exemple, autant du style Martin... donc l'ami de Cards de Flash McQueen pardon est super intéressant et super touchant dans le premier film et hyper marrant, autant dans le deuxième il m'a gonflé, il y a trop de vannes sur lui, on va trop voilà, d'ailleurs il y a plein de courts-métrages qui sont sortis avec Martin et en fait ce personnage je peux plus me le voir. Ils en ont vraiment fait un modèle pour voilà un running gag.
Ils en ont fait un clown quoi.
Ouais, un peu comme Jar Jar Binks dans Star Wars.
Exactement. C'est un peu, le même personnage.
Voilà. Donc on va pas en parler plus parce que c'est pas. On va plus parler de Ratatouille.
On va plus parler de Ratatouille qui est un film qui là marque tout le monde. Hein. C'est un des gros classiques de la compagnie Pixar. C'est clairement, c'est celui
un
qui
des meilleurs.
Un des meilleurs.
Franchement, un des meilleurs.
Un qui marque le plus. Et en plus, sans être chauvin, c'est le seul qui se passe entièrement à Paris et entièrement en France. D'ailleurs, la bande originale faite par Camille, on a voulu mettre quasiment que des musiques anglaises en version originale, mais là, c'est du coup la version originale, parce que pour l'anecdote, Camille est la seule, et Le Festin, du coup, est la seule musique des films Disney qui ne change pas, dans la compagnie Disney et Pixar, qui ne change pas selon les versions. La version de Camille en français, qui s'appelle Le Festin, est présente dans toutes les versions du film Ratatouille dans le monde entier, et c'est la seule musique de l'histoire de Disney à ne pas changer de langue et de version.
Ça me paraissait cohérent. Enfin, dans le sens où voilà, ça se passe à Paris, on va vanter les mérites de la gastronomie française qui, je crois, enfin, dans le monde est considérée comme la capitale. Enfin, en tout cas, la France est considérée comme la capitale de la gastronomie. Donc, à juste titre, je pense que c'était bien de mettre une musique française.
Oui, c'est un bon clin d'œil, mais qui n'avait pas fait, par exemple, pour le Bossu de Notre-Dame. Parce que les chansons du Bossu de Notre-Dame varient en fonction des versions. Mais là, oui, c'est vrai que d'autant plus qu'on rajoute la gastronomie française. Donc, on était un peu obligés. On avait le personnage de Gusteau qui est inspiré directement de Paul Bocuse. Donc, il fallait que la chanson soit en français.
Exactement, tout à fait. Donc, ouais, Ratatouille, super film. C'est un peu comme le même délire que Monstres et Compagnie. On va s'attacher à quelque chose que de base les enfants, même les adultes, ça les répugne. Donc en l'occurrence les rats, parce que les rats de Paris, c'est considéré comme c'est sale, c'est porteur de, enfin vecteur de plein de maladies. Et là en fait, on va s'attacher à un petit rat tout mignon qui en fait n'est pas comme sa tribu, n'est pas un voleur, qui ne mange pas n'importe quoi, qui aime beaucoup la gastronomie, qui aime cuisiner, qui n'aime pas voler. Et du coup, par ce biais-là, voilà, tout le synopsis du film, c'est ce rat-là n'est pas fait pour la cuisine de base, mais va vouloir faire de la cuisine et va y arriver. Oui. Avec l'aide de son fidèle compagnon, Linguini.
Linguini, le fameux. Qui n'est pas sans rappeler les pattes du même nom. Et il va arriver à faire de la cuisine parce que Gusteau, qui est son modèle, a pour devise « tout le monde peut cuisiner et tout le monde sait cuisiner ». Donc c'est encore une fois un message de tolérance et d'espoir pour tout le monde qu'on retrouve souvent dans les films Disney Pixar, hein, des beaux messages très larges comme ça. Mais effectivement, oui, c'est encore il faut aller la chercher, cette idée de mettre un rat dans une cuisine, d'autant plus dans une cuisine d'un étoilé parisien. Et comme si c'était le principe, c'est en gros c'est un rat qui est à la tête du restaurant Paul Bocuse à Paris sur les grands boulevards. Donc c'est une idée encore originale et très surprenante de la part de Pixar et qui fonctionne.
Et au niveau des décors, on est donc du coup on va être plongé dans les petites rues de Paris. Ça me fait un peu rappeler les décors du fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Donc avec un Paris très beau, très propre, ce qui est pas toujours le cas. Mais voilà, moi personnellement, je suis pas du tout fan de la ville de Paris. Mais quand je découvre ça dans Ratatouille, ça me donne envie de rêver, ça me donne envie d'aller manger à Paris dans un bon restaurant, de visiter avec la Tour Eiffel que toujours dans tous les films on voit. Une tour Eiffel en fond, bah là oui, ça n'échappe pas à la règle. On va voir la petite tour Eiffel illuminée la nuit quand Rémi va découvrir en fait qu'il est sur les toits de Paris. Et très franchement, enfin, moi pour moi, c'est même les personnages. On a des super développements de personnages, notamment moi j'ai beaucoup aimé. C'était le personnage de Anton Ego, donc du coup, on va pas dire le méchant parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film, hormis le petit chef Skinner là qui veut absolument qui va absolument reprendre son restaurant. Mais voilà, Anton Ego, c'est pour moi, il est super bien développé dans le film. On s'attend pas du tout à la fin à ce retournement. On se pense que ça va être un homme très froid. D'ailleurs, c'est ce qui laisse paraître visuellement.
Attention pour ceux qui n'ont pas vu le film, couper la radio à ce moment-là.
Non, ça va pas être un spoil, mais voilà, on va avoir une très bonne évolution du personnage qui va nous rappeler en fait à tous des souvenirs d'enfance et en fait voilà les bons petits plats que maman pouvait faire. Moi, je trouve ça voilà magnifique.
Tout à fait. Et puis tu le disais hein, sur les décors et visuellement, c'est très très poussé. Donc on a Rémi qui se balade sur les rues de Paris, et pour tous ceux qui ont la chance et qui aiment Paris, vous remarquerez que la Tour Eiffel est assez surdimensionnée dans ce film, et on a l'impression qu'elle est posée directement sur les toits de Paris. Bon, c'est plutôt marrant à observer. C'est pour bien la différencier. Au moins, on la voit bien, on peut pas la rater, et ça fait visuellement quelque chose de très bien. Mais une autre petite anecdote, est-ce que tu avais remarqué que, mis à part son corps, qu'il l'est déjà, le bureau d'Anton Ego a la forme d'un cercueil quand on le voit du haut, parce qu'il y a un plan en plongée sur Anton Ego, et vous regarderez la prochaine fois que vous regardez le film. Son bureau est en forme de cercueil, donc pour rappeler aussi tout l'aspect très sombre et très froid qu'a le personnage, parce que déjà son corps est très élancé et
très grand, très fin,
un cadavre. Avec des épaules un peu larges qui ressemblent à un cadavre et à un cercueil.
Bah ça, je savais pas. Par contre, ce que j'avais bien remarqué d'entrée, c'était qu'on était sur donc quand on est rentré dans le bureau de Anton Ego, on avait une couleur très sombre, un aspect très très sombre au niveau du décor. Ça va être des meubles très noirs, très sombres, très gris, tout simplement pour marquer la froideur. Bon, ça on l'apprend à personne, je pense que même un enfant peut le remarquer, que voilà, ce personnage là quand on va rentrer dans son bureau, ça va pas être le plus gentil de tous. Donc c'est simple mais efficace.
C'est le bureau du directeur, quoi, celui qu'on n'a pas envie d'aller voilà, voir quand on est à l'école
du tout. Et pour finir sur Ratatouille, donc le film, voilà, du coup, il prête son nom à un célèbre plat donc méditerranéen. Et en fait, la ratatouille qu'on va voir à la fin dans le film, que Rémi va servir, c'est en fait un tian. Ce n'est pas une ratatouille, c'est un tian de légumes. Donc oui, c'est les mêmes ingrédients, mais c'est pas cuisiné pareil.
Donc, une petite entorse à la gastronomie française que les Américains n'ont pas pu passer. Mais que nous, bons Français, nous avons pu noter. On ne se gênera pas de leur dire et de leur envoyer une petite lettre pour qu'ils rectifient ça dans les nouvelles versions.
Par contre, moi, ceci dit, dès que je vois ce tian de légumes, j'ai envie vraiment de faire la même chose chez moi. Ouais, visuellement, c'est beaucoup trop beau, les petites tranches de tomates, courgettes, aubergines, tac, 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 tac. C'est super beau.
Aligner les unes sur les autres, voilà. Ça doit être un peu compliqué.
C'est un peu long, putain.
Un peu long à préparer, mais ça doit être sympa. Et pour conclure sur Ratatouille, pour ceux qui ont du coup aimé comme nous le film et surtout l'aspect visuel du film, et ceux qui ont la chance d'aller à Disney, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dans le coin Ratatouille qui se trouve dans le Disney Studio, qui est sublime. Ils ont recréé des petites rues de Paris, on a l'impression d'être plongé dans le film. Et pour ceux qui ont encore plus de chance, n'hésitez pas à aller manger dans le bistrot de Rémi, parce que le bistrot est basé sur le fait on vous transforme à la taille des rats et que tout est surdimensionné. Vous mangez sur des capsules de bière, vos sièges sont des livres. Enfin, c'est très très sympa à aller voir, et pour ceux qui ont la chance de le faire, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est vraiment une très très belle expérience, et l'attraction est splendide, les décors sont magnifiques, et c'est une vraie vraie bonne expérience. Pour tous ceux qui ont la chance d'aller à Disney un jour ou l'autre, n'hésitez surtout pas à la faire. Elle est ouverte tout le temps. De toute façon, c'est vraiment une bonne expérience et une bonne visite à aller faire quand on est sur Paris. Et donc, on va continuer à enchaîner avec deux autres films, avec maintenant un thème musical qui ouvre un film Pixar qui s'appelle Là-haut, et qui, on ne va pas trop en parler, mais c'est une musique qui, avec la scène d'ouverture, et poignante et chargée d'émotions. Vous remémorerez le film quand vous entendrez la musique. Et on enchaînera avec un autre grand classique des Pixar, que là, c'est sûr que vous l'avez tous vu dans votre enfance. Vous reconnaîtrez aussi la chanson et le film du coup. On se retrouve tout de suite. On est toujours sur Ciné7 et sur RKS et RKS.fr. A tout de suite.
the stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms.
On est toujours sur RKS, on vous a diffusé deux magnifiques musiques, donc respectivement Married Life de Michael Giacchino, donc pour la BO de Lao, et Beyond the Sea, donc pour le monde de Nemo. Donc on va commencer rapidement avec Lao, donc que moi j'ai pas forcément apprécié, donc ça va décevoir certains parce que c'est considéré comme un des meilleurs Pixar, ce que je peux comprendre, mais en fait moi ce que je vais retenir de ce film là principalement, ça va être forcément la scène d'intro qui est magnifique, qui est pleine d'humanité et que pour un enfant c'est super dur à encaisser. Je pense que c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, on sait ce qui se passe à l'intérieur et j'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça mine le moral, mais voilà, c'est une vie c'est la vie de tous les jours et c'est ce qui peut arriver à n'importe qui, donc c'est important de profiter de ses proches. Petite aparté. Et au niveau du film, voilà, pour moi en fait c'est juste voilà une espèce de quête qui pourrait s'apparenter un peu à Indiana Jones, dans le sens où voilà, on va avoir une aventure, on va découvrir des compagnons hors du commun, mais que j'ai pas forcément apprécié, ni le méchant, enfin le personnage, voilà, l'antagoniste n'est pas forcément, il est oubliable en fait, il est assez oubliable, donc moi si je dois vraiment retenir une chose sur Lao, ça serait sa scène d'ouverture. Et toi Kéliane, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, c'est pareil, c'est la scène d'ouverture qui est très charismatique, qui prend aux tripes d'entrée de jeu. On parlait d'humanité, effectivement ça rappelle par exemple Marriage Story, enfin c'est vraiment la même chose, on voit toute la vie défiler en quelques minutes, c'est très bluffant et très très bien fait. Après, ce qui marque aussi, c'est la maison qui s'envole avec des millions de ballons gonflés à l'hélium. C'est très très beau visuellement aussi. Après, le film, je trouve des fois un peu longué, même si il y a l'originalité encore d'un chien qui parle et d'un oiseau. Mais le film est des fois un peu long. Mais c'est vrai que le reste du film est pas si marquant que ça.
Ouais, mais le chien qui parle, déjà ça a été fait dans pas mal de films, et en plus on a déjà eu 2 ans avant, on a eu Ratatouille, donc un rat qui parle.
Ouais.
On a eu des monstres qui parlent, même des insectes qui parlent dans un des premiers films, je me rappelle plus de son nom.
Mille et une pattes.
Mille et une pattes. Donc même des jouets qui parlent. Enfin, pour moi, voilà, en fait, il y avait rien d'innovant dans ce film-là, vraiment rien du tout. Oui, c'est un très beau Pixar visuellement. On a les ballons, c'est super coloré, c'est super beau. Même la petite la falaise, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, la fond. La maison de Carl Eriksson doit se poser. Je trouve ça très beau le décor, mais voilà, c'est pas un film qui m'a forcément marqué.
Oui, il nous a tellement pas trop marqué qu'on va enchaîner avec d'autres choses qui parlent. C'est des poissons qui parlent, avec Le Monde de Nemo. Mm-hmm. Très beau film, un film qui nous a marqué aussi, nous, parce que c'est un film qui est sorti en 2003. Donc on était tout jeunes, enfants. Mais c'est un film qui est encore... c'est une quête initiatique encore, et c'est vraiment un film qui marque et qui... dont on s'en souvient, quoi.
Moi, c'est le premier film Pixar que j'ai vu au cinéma, donc avec mon papa et ma sœur. Ça a été, enfin, pour moi, c'est, alors je sais pas si c'est considéré comme, enfin, pour moi, dans mon top de mes Pixar préférés, mais au niveau de la nostalgie, c'est vrai que c'est un des films que je préfère revoir, enfin, un des Pixar que je préfère revoir au cinéma, et aussi du coup chez moi tranquillement. On va avoir, voilà, une bonne quête, en fait. Enfin, ça avait plutôt retrouver, en fait, voilà, un être cher qui a disparu. Et c'est plein du, voilà, c'est, en fait, même si c'est des poissons, on va s'attacher à des petits poissons clowns.
Voilà, des poissons clowns. Et d'ailleurs, on s'attache tellement à ces poissons clowns que leur vente et leur adoption a augmenté et a bondi après la sortie du film. C'est qu'on avait tous envie d'avoir un petit Nemo chez soi. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, je l'ai eu, le petit Nemo, à la maison. Et c'est vrai qu'on s'y attache, on a envie que ça se finisse bien. On a toujours pareil des péripéties, et c'est quelque chose qui est encore visuellement très 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 abouti et plein d'humour. Encore un très très bon film Pixar.
Ouais. Et en plus, je trouve que ça retranscrit beaucoup la vie sous mer. On a des passages, en fait. Voilà, avec la barrière de corail,
ouais.
qui est super beau. On va avoir, je m'en rappelle à peu près, la scène avec Bruce, donc le gentil requin qui en fait, est pas très gentil quand il renifle du sang. Donc avec le bateau, le sous-marin ou le bateau qui a échoué.
Qui a échoué, ouais.
Et que, en fait, enfin, moi, je trouve ça vraiment magnifique avec les bombes qui vont, les détonateurs, en fait, les mines qui vont exploser. Pour ceux qui ont vu le film, vous vous rappelez sûrement de cette scène. Ça va exploser, il va voir, en fait, le son va être décalé. Mais ça, en fait, c'est très bien retranscrit parce que, du coup, dans l'eau, le son est décalé quand il est décalé de quelques secondes. Mais du coup, c'est le souci du détail, mais qui est important. Et aussi les personnages qui sont, voilà, qui sont très bien écrits. On s'est tous attachés à Dory, par exemple. Dory, voilà, qui est super,
qui est mignonne et qui a des troubles de la mémoire immédiate. Mais c'est aussi un film qui est très bien fait parce que c'est un film qui porte son amour et qui déclare son amour à l'océan et qui nous invite du coup à le protéger. Et c'est important parce qu'on a quelques traces de pollution dans le film et d'autant plus dans le 2. Mais c'est important de protéger les mers et les océans et de pas jeter n'importe quoi dedans.
Et là, en fait, ça, c'est, j'impose ça, mais Crush, c'est le meilleur personnage de Nemo. Il n'y a rien à dire.
La tortue, là ?
Ouais, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur. Ouais. Il est... C'est une tortue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une attraction sur lui à Disneyland, hein, parce qu'il est... C'est un putain de personnage.
Et c'est encore une attraction très, vraiment à faire, toujours dans le Disney Studio, pour ceux qui ont la chance. Il faut prendre son mal en patience, parce que c'est une attraction qui...
Elle est relativement longue. L'attente est longue.
L'attente est longue, parce qu'elle est prise d'assaut. Mais c'est une très, très bonne attraction. Un roller coaster dans le noir. Mais un roller coaster familial avec beaucoup de très très beaux décors.
Et du coup, on va enchaîner maintenant avec la musique des Indestructibles. Et ensuite, ça sera Toy Story 4.
Ouais, donc encore une très très bonne sélection. Mais juste avant, une petite surprise, parce qu'on a écouté Beyond the Sea, la version anglaise chantée par Bobby Darin. Mais est-ce que tu savais que la version originale était chantée par Charles Trenet ? C'était une chanson française, on vous met ça. Et ensuite, on enchaîne avec Les Indestructibles et Toy Story 4. A tout de suite sur RKS et sur Ciné 7.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer.
RKS. Thank you. rise from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
C'était les BO des Indestructibles et de Toy Story. Enfin, on a dit Toy Story 4, mais c'est la chanson tirée de Toy Story 4, mais qu'on retrouve dans tous les films, je crois, dans les 4. Donc, c'était la BO de Toy Story, dont on a déjà pas mal parlé dans l'épisode, la rétrospective de 2019, d'il y a 2 semaines, dont on vous invite à aller retrouver le podcast. Et c'est des films dont on reparlera, parce que c'est des films qui nous ont pas marqués. C'est une franchise encore très, très bien aboutie, du premier jusqu'au dernier. Donc, on était obligé d'en parler, enfin de le mettre aujourd'hui, de la diffuser, mais on va pas trop en parler parce que c'est des films sur lesquels on reviendra dans des prochains épisodes. Donc on va plus s'attarder sur les Indestructibles qui eux n'ont que 2 films et dont on ne pourra parler que aujourd'hui.
Oui, alors je vais prendre du coup le micro pour compléter sur Kylian. Donc Indestructible, donc sorti en 2004, réalisé par Brad Bird, qui avait fait du coup Ratatouille et l'excellent Le Géant de Fer, qui n'est pas un Disney, je crois. Donc on va avoir du coup suivre une famille de super-héros. Donc c'est la première fois qu'on va suivre une histoire comme ça, parce que à cette époque-là, donc en 2004, on avait la sortie des premiers X-Men, des premiers Spider-Man, de 2-3 Superman, 2-3 Batman. Mais en fait, il n'y avait pas encore tout ce qui est l'expansion du MCU. Donc du coup le genre super-héroïque n'était pas encore assez défini, et Disney, en fait, leur pari, c'est qu'au lieu de suivre qu'un seul super-héros avec le scénario principal d'un super-héros, on va perdre quelqu'un, on va devenir un héros, patati patata, là en fait ils sont déjà des héros et ils vont avoir des enfants, les deux parents. Et ils vont devoir, du coup, gérer leur enfant, donc gérer la vie de famille, donc du coup se ranger dans une vie un peu monotone et quotidienne. Et en même temps, leurs enfants vont développer des super pouvoirs, forcément, parce qu'ils les développent à peu près à l'âge de l'enfance, adolescence, vers à peu près 12-13 ans, je crois. Et du coup, en fait, on va avoir un méchant dans ce film-là. Cette famille-là va devoir se réunir pour la toute première fois et faire une cohésion. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on a des bonnes scènes qu'on pourrait pas retrouver chez nous, parce qu'on n'a pas des super pouvoirs.
Pas encore.
On n'est pas indestructibles. Mais les scènes, par exemple, du dîner, quand il y a les engueulades entre les frères et sœurs, moi je me suis vachement identifié au personnage de Flèche avec Violette, quoi, parce que je pense que si on est des frères et sœurs, on a à peu près les mêmes dispute que les indestructibles.
Oui, et puis c'est on parlait aussi encore d'humanité, c'est un peu ça, hein, c'est casser le mythe du super-héros solitaire. Là, c'est vraiment un peu la famille tout le monde, mais avec une petite touche de plus, quoi, un petit quelque chose en plus qui fait qu'elle est extraordinaire, mais dans son extraordinaireté, elle est simple et normale et comme tout le monde, quoi. C'est une métaphore aussi, peut-être, avec nos héros à nous, qui n'ont pas de super pouvoir, mais qui sont nos célébrités, nos hommes politiques ou autres.
Et je viens de faire le rapprochement. Donc au début du film, on a Elastigirl et Monsieur Indestructible. Donc Elastigirl a un costume rouge, Monsieur Indestructible a un costume bleu, et ils vont avoir leur première fille qui s'appelle
Violette.
Voilà. Bleu et rouge.
Ah, c'est pas.
Non, mais je viens d'y penser, mais je viens de voir ça. Et c'est vrai que ouais, c'est marrant. C'est con, mais c'est marrant.
C'est bien trouvé.
Et rapidement, pour en finir sur les personnages, donc du coup, on va avoir une bonne palette de personnages, tous super bien développés. On va passer voilà, de la famille indestructible à Enda Mode, que moi j'ai beaucoup aimé la séquence où elle va nous présenter les costumes de super-héros.
Qui est inspirée par Anna Wintour, qui est surnommée la papesse de la mode. Hein.
Ouais.
Clairement, c'est défini et on le sait, c'est Anna Wintour qui a inspiré le rôle et les personnages.
Et Enda Mode qui est doublée par Brad Bird dans la version originale, donc le réalisateur du film. Donc ce n'est pas une femme qui va doubler Enda Mode dans la version originale, c'est bien le Brad Bird. Quoi. et aussi, on a une bonne tête d'affiche, on a quand même Samuel L. Jackson qui va doubler Frozen dans la version originale, que moi j'aurais bien voulu voir par exemple un spin-off sur Frozen.
Oui, je sais pas pourquoi, une bonne idée, ouais, c'est vrai.
Je trouvais le personnage avait vraiment la classe, quoi. Son costume, son pouvoir qui est en fait super simple, qu'on a retrouvé par exemple dans le personnage de l'iceberg dans X-Men. Mais pour moi, ça marche super bien. Voilà, le fait qu'il surfe sur de la glace, quoi.
Il fait penser magnifique. Un peu au surfeur d'argent aussi, un peu dans sa gestuelle.
Il y a un air. Et on a mis quand même beaucoup de temps pour avoir une suite.
Ouais, c'est vrai.
Plus de 10 ans. C'était super long, je crois même ouais, 14 ans et quelques.
Alors que le premier film se terminait sur une ouverture sur laquelle on pouvait enchaîner tout de suite. Quoi.
Voilà, mais du coup, cette suite-là a été gardée pour le jeu vidéo qui était sorti, je crois, à l'époque sur PS2. Donc ça remonte déjà. Et là, en fait, on va passer sur une histoire complètement différente, Indestructible 2, pour en parler rapidement, pas la même magie que le 1.
Ouais.
Bon scénario, mais vraiment pas la même magie. Par contre, visuellement, c'était super beau. L'aspect. Moi, je me rappelle d'une scène dans la bande-annonce. Alors, c'est tout con, mais on va voir le polo de Monsieur Indestructible et on va voir les petits filaments de tissu qui s'enlèvent du polo. Et ça, c'est con, mais dans un film d'animation, déjà, le souci du détail.
C'est quand même assez très, très, très bien fait. Pareil, on parlait de Toy Story 4. Les textures des personnages sont assez impressionnantes pour un film d'animation entièrement réalisé à l'ordinateur et en 3D. Et encore un autre film d'animation, parce que Pixar et Disney sont que des films d'animation, mais un autre film d'animation qui nous a marqué et qui est un bel hommage au cinéma muet, c'est Wall-E, qu'on va passer tout de suite sur RKS et sur Ciné7. Et c'est l'avant-dernier film pour aujourd'hui, malheureusement, mais... Le temps est défini, on se retrouve tout de suite sur RKS. On vous passe La vie en rose, pas la version originale, mais la reprise de Louis Armstrong. A tout de suite sur Ciné7.
Magic spell you cast, this is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrose.
when you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La vie en rose.
On est toujours sur RKS, donc du coup c'était la BO de Wall-E, qui est super, enfin vraiment ce film là, je pense que c'est considéré, enfin pour moi c'est mon film Pixar préféré, déjà d'une, comme Kian l'a dit, c'est une très belle, comment dire, une déclaration d'amour au film muet des années 40, des années 50, parce que je crois bien que les trois quarts du film, il n'y a aucun temps de parole. Ceux qui vont parler, ça va être principalement les humains dans ce film-là, qui ne sont pas non plus nombreux, et Eve. Donc, on peut aussi. Alors, Eve, je pense qu'on apprend ça à personne, mais forcément, le nom n'a pas été choisi au hasard. Ça peut symboliser un peu l'amour qu'on a de Adam et Eve. Je pense que c'est sûr que c'est ça. J'ai pas d'infos vraiment précises dessus, mais ça me paraît pas illogique personnellement.
Et puis c'est aussi le recommencement, parce que son but est de trouver une trace de vie sur Terre, et donc elle est un peu la pionnière, la première qui va pouvoir revenir, enfin qui va ouvrir la porte à une nouvelle vie sur la planète Terre.
Puis ce film pour moi c'est, alors oui, c'est un film d'animation, mais ça pourrait très bien être catégorisé dans un film science-fiction et film d'anticipation, parce que mine de rien, le fait que les humains ont quitté la Terre parce que à cause de la pollution, de la radioactivité, c'est ce qui pourrait arriver plus vite que prévu sur Terre, et devoir quitter en fait cette magnifique Terre, et le fait qu'en fait après les humains sont trop scotchés aux écrans, qui en fait ne bougent plus, n'ont plus d'activité physique, et qu'en fait leur corps, leurs muscles n'est plus capable de se déplacer soi-même, et qu'en fait ils sont obligés d'être dans des espèces de fauteuils qui va voler pour en fait ne plus avoir de contraintes liées à leur physique.
Ouais, et puis c'est aussi une autre vigilance, parce que quand on est enfant, on rêve d'espace, on rêve de vaisseaux spatiaux, et c'est ce qui se passe dans le film. Ils sont obligés d'aller vivre sur un vaisseau, et en fait c'est aussi nous montrer que l'espace c'est pas que idyllique non plus, il y a des mauvais côtés, et ça en fait partie selon la vision de Disney, quoi.
Voilà. Et alors ça, je me répète à chaque fois sur chaque Pixar, je crois, mais on va s'attacher à un personnage que de base, qui pourrait s'attacher à un petit robot qui nettoie les ordures? Personne, je pense. Surtout, c'est qu'il ne parle pas. Donc, au début, quand on est enfant, on pourrait se dire ouais, mais le robot, il ne parle pas, il n'est pas marrant. Mais en fait, on va voir toute son humanité quand il va tomber amoureux de la charmante Eve, qui est en fait vraiment l'opposé de Wall-E. Wall-E, qui est un robot qui va pas pouvoir voler, par exemple, contrairement à Eve, qui est vachement développée. Eve, qui a des courbes très lisses, très blancs, très propres. Et Wall-E, c'est cubique, c'est sale, c'est rouillé. Donc ça fait une belle... En fait, ça me fait un peu penser à La Belle et le Clochard. Personnellement, voilà, de l'opposé qui s'attire. Moi, je trouve ça très beau. Ça peut montrer qu'en fait, le physique ne fait pas tout. Suivant comment on va parler à la personne... avec qui on est bien, qu'en fait ça peut bien se passer, et que voilà, le physique ne fait pas tout.
Tout à fait. Et puis je pense que c'est un film, peut-être, tu parlais du fait qu'il soit quasiment muet, c'est un film qu'on apprécie plus quand on est un peu plus mûr que quand on est enfant. Je pense qu'un enfant va vite
perdre patience et va pas trop trop s'attacher, mais quand on est un peu plus grand, on va vite l'apprécier, on va tomber sous le charme de ce film. Il est très poétique, visuellement encore très très bien travaillé, et c'est un film qui va nous faire réfléchir, mais qui va nous faire rêver aussi.
Et sans tant de paroles en soi, on arrive à identifier les scènes d'émotion, voilà tout en fait, dans les yeux des personnages, principalement voilà, du coup de Wally et Eve, on va ressentir en fait toute la peine, tout leur amour, et voilà, pour moi c'est vraiment super bien fait. On va aussi avoir une belle référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, donc de Stanley Kubrick, avec la scène où le commandant va se lever pour la première fois, avec du coup la musique de la scène d'intro de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui pour moi est une des meilleures musiques dans l'histoire du cinéma.
Ouais. Et puis on a aussi un film qui est très très burlesque, enfin plein d'humour, qui rappelle un peu l'humour de Chaplin, quoi, très porté sur.
De toute façon, ouais, c'est cinéma muet.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très très bien travaillé, un bel hommage et un très très beau film avec les scènes où Wally est en apesanteur avec son extincteur. C'est très très bien,
très bien fait. Très beau.
C'est très beau. Et un autre film qui est très beau, mais dans un autre genre, qui se passe lui au Mexique, c'est un des derniers Pixar sortis. Et un autre Pixar qui est bluffant, c'est Coco, qui est un film qui marque aussi. C'est encore une idée très originale, c'est un petit garçon qui se retrouve piégé dans le monde des morts au Mexique. Donc un film qui visuellement est très poussé, qui rappelle la culture latino-américaine, mais qui marque et qui nous fait chialer, quoi, carrément.
Bah, ce qui est bien en fait dans ce film, c'est que le fait que ça se passe du coup dans le monde des morts, ça permet un peu de dédramatiser la chose. Le fait que voilà, la mort est naturelle, ça va arriver à tout le monde. Et que en fait, voilà, nos ancêtres, ils veillent sur nous dans le monde des morts. Et que si on pense très fort à eux, ils seront toujours là pour nous. Donc c'est très beau. Et le fait que voilà, ça se passe au Mexique, parce qu'au Mexique, la fête des morts, en fait, c'est différent que
notre Toussaint.
Voilà, la mort en fait est célébrée différemment au Mexique. Eux, voilà, ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir, enfin, ça n'en sait rien, mais le fait qu'ils peuvent retrouver leurs ancêtres le temps d'une nuit ou d'une journée, ne sais plus. Oui,
tout à fait. Ouais.
Okay. Et ouais, c'est en plus le maquillage qui est utilisé sur les squelettes, c'est super beau. Enfin, ça fait voilà, ça change en fait pour un Disney, ça change. On est sur un tout nouveau décor qu'on n'a jamais pu voir au cinéma. À part, oui, alors après, il y a un film qui s'appelle La légende de
Manolo.
De Manolo, qui, voilà, ça peut, voilà, c'est inspiré, forcément, mais l'histoire est quand même tout autre. C'est pas vraiment la même chose, et personnellement, je préfère quand même Coco.
Ouais, et puis au niveau des couleurs aussi, il est incroyable sur les nuances de orange, de vert, de bleu, très fluo, très flashy, et qui donne envie tout simplement d'aller visiter le Mexique.
Voilà, c'est pas notre préféré parce qu'on n'a pas vraiment. On n'a pas grandi avec, mais il faut reconnaître que c'est un super film et que je pense que les enfants qui vont du coup découvrir ce film maintenant, au plus jeune âge, bah, moi je pense que ça sera super bien pour eux. Enfin,
ouais, je pense qu'ils vont vraiment être marqués et ils vont s'attacher aux personnages comme nous on a pu s'attacher aux films de notre enfance qui sont plus Toy Story, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. C'est vraiment un film qui va marquer son époque et qui l'a déjà marqué parce qu'il a remporté quelques Oscars. Il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, je crois, et, oui. Et aussi du meilleur mixage ou de la meilleure photographie, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment un film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez-y, courez-y. Si vous avez l'opportunité, allez-y au cinéma aussi. On le dit toujours, le cinéma, ce n'est pas du tout la même saveur que chez soi sur sa télé. Mais même si vous ne pouvez pas aller le voir au cinéma, regardez-le, trouvez-le, faites quelque chose, mais vraiment, c'est un film à voir.
Et n'hésitez pas aussi, pour en conclure sur les Pixar, après on vous quitte, n'hésitez pas à regarder en fait, le nouveau film Pixar En Avant, qui est sorti en fait, juste avant le confinement et que peu de personnes ont pu voir au cinéma, qui en fait, c'est pas le meilleur Pixar, mais c'est déjà le bah, voilà, je vous laisse voir la bande-annonce ou même voir le synopsis, mais ça, c'est un super Pixar qui malheureusement n'a pas eu la visibilité qu'on lui attendait. Donc n'hésitez pas à voir En Avant.
Tout à fait, allez-y, parce qu'il est toujours au cinéma actuellement.
Dans peu de cinémas, mais ouais, il est encore diffusé dans certains cinémas.
Donc allez soutenir le cinéma, allez vous amuser en famille, à aller voir En Avant, qui est un très très bon film et qui est du coup le dernier Pixar sorti dans les salles. On va se quitter, Marvin, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on se prépare pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous pouvez regarder et préparer pour le thème de la semaine prochaine?
Alors la semaine prochaine, du coup, on sera trois. Jade sera de retour et on va parler en fait des biopics musicaux. Donc on vous invite à voir. Principalement, du coup, pour ceux qui ont Netflix, on vous invite par exemple à voir les biopics de Gainsbourg, par exemple, le biopic
de Clo-Clo.
De Clo-Clo et le biopic de.
De Ray Charles.
Non. Richard, il n'y est plus. Ah. J'ai mangé son nom. Edith Piaf.
De Edith Piaf, oui. Le biopic s'appelle La Môme. Et puis ensuite, on va avoir aussi Bohemian Rhapsody, Rocketman et d'autres surprises voilà. dont on ne va pas tout vous dévoiler.
À voir deux, trois films sur les biopics musicaux parce qu'on aura des super bandes-son.
Tout à fait. Vous pouvez toujours retrouver les épisodes précédents en podcast sur le site de RKS ou sur l'application RKS de la radio. Et aussi, comme chaque semaine, la playlist des musiques que nous avons diffusées aujourd'hui sur la page YouTube de RKS. Donc allez y faire un tour si vous n'avez pas pu noter toutes les références et que vous avez envie de retrouver les musiques. C'est là-bas que ça se passe. Ou sur le podcast si vous avez envie de nous réentendre pendant une heure ensemble, ça nous fera toujours plaisir. Et on va se quitter du coup avec Un Poco Loco, qui est la bande originale de Coco. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciné 7. Et on sera toujours sur RKS, mais on sera plus deux, on sera trois. Alors à la semaine prochaine et à bientôt. Passez une bonne semaine.
Mi amor, tu me dis rose crevette, ah, mi amor, qu'est-ce que je fais de mes chaussures, ah, mi amor, tu dis mets-les sur ta tête, ah, mi amor, et tu me rends un poco loco, un poquititito loco, je suis un homme amoureux, qu'on ne prend plus au sérieux, je peux m'estimer heureux, d'être seulement un poco loco.
Que je deviens est si fou qu'il ne comprend rien. Toutes ces phrases que tu répètes
et toutes ces soirées de fête
qui me font tourner la tête. Oui, tu es un poco loco.
Pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure!
I'll be back.